Juste avant de prêcher, je voudrais dire que l'Église, c'est un corps. Nous sommes un corps. Mais qu'est-ce que c'est que l'Église encore? Juste, si vous avez une réaction, c'est quoi encore l'Église? C'est une famille? C'est une famille? Ah, vous n'êtes pas réveillé là. Oui, d'accord. Non, non, mais si vous êtes d'accord. Je continue par la famille. Et qu'est-ce qui se passe dans une famille? Est-ce que une famille, on est très loin les uns des autres, ou est-ce qu'on est proche? On est proche. Hein, la particularité d'une famille, c'est qu'on est proche. Et qu'est-ce qui se passe quand on est proche, entre autres? Qu'est-ce qui se passe? Ah. J'attendais cette réponse, mais elle est venue du pasteur, là. Voilà. Des fois, on a des soucis entre nous. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des soucis dans une famille? Ah ben, il a toutes les bonnes réponses. Hein. Vous avez un bon pasteur. Hein. Ça me gagne du temps parce que ça m'évite d'écouter les bonnes réponses. Elles sont données par Oscar. Voilà, on se demande pardon, parce qu'il faut continuer, parce que le Seigneur nous a mis dans une même famille, on n'est pas choisi. Hein, le père de mon épouse disait, les amis, on les choisit, mais la famille, on les choisit pas. On les subit, entre guillemets. Mais voilà, donc voilà, il faut se demander pardon. Alors, moi, ce matin, je voudrais demander pardon à Espérance, parce qu'il y a un petit souci dans notre famille cette semaine. Parce que vous voyez, on est en vacances, et puis voilà, on n'a pas le groupe de louanges. Voilà, donc plusieurs se sont proposés. Espérance s'est proposée, moi je me suis proposé aussi. Et puis voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la louange, mais je l'ai fait dans le passé. Mais pour aider, pour qu'on puisse ensemble rentrer dans la louange. Et puis, arrivé en fin de semaine, on s'est aperçu qu'il y avait un petit quiproquo, parce que, voilà, manque, mauvaise communication ou autre, etc. Et elle voulait le faire tout seul au début, mais il a cassé sa voix tellement il a travaillé. C'est une fille courageuse et tout ça. Et puis, hier, elle m'a dit, je peux pas, je vais peut-être le faire avec d'autres voix. Je dis, écoute, je suis toujours prêt pour aider à la voix, etc. Bon. Enfin, bref. Mais elle a été blessée et je lui demande pardon, même s'il n'est pas là, en tout cas. Si elle était là tout à l'heure. Hein. Voilà, mais que le papa puisse lui dire, hein, que l'Église lui demande pardon, parce qu'en fait, on se blesse, parfois inutilement, mais le pardon est là pour réconcilier les choses et pour repartir, pour être en famille. Voilà, parce que justement, Oscar a dit, il faut qu'on soit un. Mais vous savez, c'est facile à dire, il faut être un. Mais le faire, ça nécessite de l'humilité, ça nécessite une démarche pour dire, voilà, c'est pas passé comme c'est prévu, mais voilà, on va continuer, etc. Parce qu'on va mieux faire la prochaine fois. Vous voyez? Là, moi j'ai de la chance, je pourrais mieux faire la prochaine fois. Voilà. Donc voilà, des progrès sont possibles, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse s'aimer, se pardonner et continuer à marcher ensemble. Amen. En tout cas, c'est ce que je voulais dire ce matin. On va prier pour ce temps de prédication où je vais terminer aujourd'hui sur la justice. C'est un message qui est pas facile parce que il heurte un peu nos préjugés hein, sur la justice. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans les prédications, mais la justice, je n'ai pas trop entendu. Et là, j'ai vraiment creusé la question, et je crois que la justice, ça nous concerne tous, parce qu'après le salut, quand on est sauvé par Jésus, qu'est-ce qui est le plus important, à votre avis? Pour moi, c'est la justice. De toute façon, il suffit d'écouter les Français, hein. Tout le monde veut la justice, et même les chrétiens veulent la justice. Ou alors, vous avez des chrétiens, s'ils ne veulent pas la justice, eh bien, ils se traînent. Hein. Ouais, Dieu m'a pris ma femme. Bon, qui n'a qu'à prendre mes enfants? Qui n'a pas prendre, il n'a qu'à prendre. C'est ça le chrétien? Est-ce que le chrétien ne doit pas réclamer la justice parce que le Seigneur a fait des promesses? Eh bien, je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'on comprenne bien la justice telle qu'elle est enseignée dans la parole. Seigneur, nous te prions pour ce temps où nous allons ouvrir ta parole pour qu'elle puisse nous enseigner et qu'elle puisse nous édifier, afin que, Seigneur, nous puissions mettre en pratique. Parce que ce qui est important, c'est la mise en pratique de ta parole. Amen. Dans le psaume 97,2, donc je rappelle quelques versets que j'ai déjà partagés avec vous. La justice et le droit sont l'appui, ou certaines versions disent la base de son trône. Vous voyez, là j'ai pris une image qui essaie de représenter le trône de Dieu. Dieu, on ne le voit pas, il est lumière. Mais il y a un trône dans le ciel, il y a un trône, une réalité céleste, devant laquelle nous allons tous passer, d'une part, et qui est ouvert en permanence. Il est ouvert en permanence, il y a les anges qui sont là, et la justice et le droit, ils assurent l'assise de ce trône. Si la justice et le droit ne sont pas exercés, le trône, il vacille. Le trône de Dieu, il vacille. Or, le trône de Dieu, il est stable. Et c'est parce qu'il est stable, parce que Dieu, il juge en permanence. Très souvent, on pense juste au jugement dernier. Pourquoi ? Parce que l'Église catholique a fait des grandes fresques sur le jugement dernier, dans les différents édifices, etc. Il y en a un, rétable d'Issenheim à Colmar, qui est fabuleux. Mais il n'y a pas que le jugement dernier. Dieu juge chaque instant de chaque jour, parce que c'est comme ça que se passe le règne. Et il y a Lucifer qui vient, de temps en temps, à ce trône, et cela nous est révélé dans la parole, en particulier dans Job. Et lui, il est l'accusateur des frères, parce qu'il aime bien accuser les frères, parce que les autres, à la limite, ils pêchent déjà naturellement dans le monde, mais les frères, il veut les accuser pour, si possible, qu'ils perdent leur salut, si possible qu'ils perdent la bénédiction, etc. Et donc il vient et il accuse tel ou tel. Et il vous accuse. Il y en a déjà qui ont été accusés par Satan. Moi, de nombreuses fois. Voilà. Mais il y a Dieu qui juge. Et Dieu est un juge qui est juste. Il est juste, il est justice et équité. Alors, quelques versets là-dessus. Pour, de toute façon, il y en a 500. Donc, je ne vais pas vous les citer tous les 500. C'est 500 fois que la justice est évoquée, alors que l'Église, c'est 4 fois. Jésus a parlé 4 fois. Et là, c'est 500 fois. Donc, le psaume 103, verset 6, nous dit que l'Éternel fait justice et droit à tous ceux à qui l'on fait tort. Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais eu de tort par personne ? Non ? Donc, vous êtes tous concernés par ce message de la justice. Dans le psaume, chapitre 37, verset 28, il est dit « Car l'Éternel aime la justice ». Non seulement il établit la justice, il aime. C'est quelque chose qui est sur son cœur. Il aime la justice et n'abandonne pas ses bien-aimés. Ils sont gardés à jamais. Amen. Voyez-vous, certains chrétiens attendent la fin des temps. Ils attendent qu'ils soient enlevés. Ils attendent, enfin c'était toute une période pendant mes jeunes années où on attendait la fin du monde. Voilà, et on attend d'être enlevés. Mais non, c'est aujourd'hui, chaque jour, Dieu nous fait justice et nous rend justice. Et c'est ça qu'il faut intégrer dans notre vie chrétienne, c'est que Dieu, chaque jour, il fait justice à ses bien-aimés. Vous voyez, on parle tout le temps de royaume de Dieu, royaume de Dieu, royaume de Dieu. Royaume de Dieu, ça veut dire régner. Dieu règne. Eh bien, le rôle important d'un règne, d'un gouvernement, c'est d'exercer la justice. Salomon l'a compris. Et il a demandé à Dieu. Il a demandé, non pas la sagesse en soi, mais la sagesse du discernement entre le bien et le mal pour rendre justice avec équité. Voyez-vous, c'est un but de rendre justice, la sagesse. Dans le psaume 72, nous voyons ça au chapitre, au verset 1er, où Salomon lui-même dit « Ô Dieu, accorde au roi de juger comme toi, et donne au fils du roi, donc à moi, ton esprit de justice, qu'il rende la justice à l'égard de ton peuple selon ce qui est juste, à l'égard de tes pauvres selon ce qui est droit. La paix descende des montagnes et la justice des collines pour tout le peuple. Et Dieu a aimé cette prière. Dieu, la plupart du temps, quand il demande à des rois, qu'est-ce que tu veux, veut l'argent, veut le pouvoir, veut la gloire, etc. Et Salomon a dit non. Donne-moi juste une chose, c'est de pouvoir discerner justement les causes qui me sont présentées parce que je veux que le peuple vive selon la justice. Voilà. C'est-à-dire qu'il a demandé exactement ce que Dieu fait dans son règne, lui, dans le royaume de Dieu. Donc du coup, il y avait une correspondance parfaite entre ce que Dieu fait et ce que Salomon a voulu faire. Et Dieu l'a béni. Et Dieu, c'est la première fois et la dernière fois qu'un roi, il nous est cité, qui a une telle demande. Alors quel est l'état de ce monde ? Ben, si on regarde, tout à l'heure, Oscar l'a évoqué, le mal progresse. Et il progresse en particulier à cause des systèmes de gouvernance où les autorités cherchent à être élues et réélues au lieu de chercher le bien commun. Récemment, Michel a demandé à quelqu'un qui fait des études politiques, il a dit... Voilà, toi qui es au sein des saints, t'es tombé dans la marmite, là, est-ce que... Il y a des politiques qui cherchent le bien commun, la dernière chose qu'ils cherchent, c'est le bien commun. Et ils cherchent à être réélus. Et c'est un... Alors, bien sûr, les autocrates, bon, ils sont élus à vie, ils s'arrangent comme Poutine pour être élus jusqu'en 2036, je crois. Enfin bon, ils changent la constitution, c'est les autocrates. Donc eux, il n'y a pas de problème, ils peuvent régner en maître. Mais dans nos démocraties qu'on vante comme étant les meilleures, du peuple, démocratie, c'est le peuple qui dirige, donc c'est parfait. Et en fait, le vice caché, c'est que pour être élu, il faut que ceux qui sont élus aient les votes, donc ils soient votés. Donc il faut qu'ils plaisent aux gens. Ce n'est pas tellement le bien commun qui est important, c'est le fait de faire ou de paraître selon ce que le peuple y veut, pour que être élu. Donc ils sont élus et ceux qui en plus sont... Comme au Sénat ou à l'Assemblée nationale, c'est leur boulot, quoi. S'ils perdent leur boulot, ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils n'ont même pas appris à travailler dans la société. Donc, ils veulent être réélus, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est plaire au peuple. Et donc, ce sont les politiciens, ce qu'on appelle la politique politicienne. La vraie politique, c'est très bien, c'est justement la justice. Mais la politique politicienne, c'est d'être réélu. Alors que, en fait, Dieu veut des leaders. Des leaders qui portent une vision et qui influencent dans cette vision de justice. Donc les leaders dirigent selon une vision du bien commun et font ce qui est juste. Je sais quelques endroits en Afrique, j'écoute un peu, etc. Voilà. Y a parfois des gens qui vraiment veulent le bien commun. Mais ils ne restent pas longtemps au pouvoir parce qu'ils sont balayés. Parce qu'en fait, il y a d'autres personnes qui prennent la place, qui veulent le pouvoir, etc. Parce que c'est le mal qui est là. Et les politiciens cherchent le pouvoir par la manipulation, en cherchant la faveur du peuple. Et donc, il y a un vice dans la société de gouvernance dans laquelle nous sommes. Et donc, ça produit ce mal qui progresse. Mais dans le ciel, nous avons un Dieu qui est juste et qui aime la justice et qui la pratique. Voyez-vous ? C'est ça l'avantage du chrétien. C'est que le chrétien est dans un royaume qui existe aujourd'hui. Il n'est pas, c'est pas quelque chose d'éthéré, nébuleux. Non, c'est une réalité. Dieu règne. Amen. Il règne selon la justice. Et c'est comme ça qu'il veut aussi que nous régnions. Mais ce sera le cas que quand Jésus sera revenu sur terre. Parce que lui, il est juste et il établira la justice. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc la justice, la Bible en parle 500 fois. 500 fois. Alors que, comme je disais, l'Église, quatre fois. Quatre fois, Jésus parle quatre fois. Donc, vous voyez, comme quoi, si c'est 500 fois, ça veut dire que la justice est l'expression même du gouvernement de Dieu dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. tout son règne, donc tout son royaume, est adossé à la justice. Et vous, vous dites, ce qui m'est arrivé, tout à l'heure, vous avez reconnu qu'il y a des choses qui vous ont fait du tort, mais ce qui est arrivé n'est pas simplement pas juste. Eh bien, ce message vous concerne et je vous invite à relire un peu tous les passages sur la justice pour vous les appliquer. Josaphat était un vrai leader, le roi Josaphat, alors que Saül est devenu un politicien. Pourquoi est-ce qu'il a fait le sacrifice à la place du sacrificateur, ce qui était interdit totalement, et ce qui lui a valu que Dieu lui retire le règne en tant que roi? Eh bien, parce qu'il avait peur du peuple. Voyez-vous, quand vous avez peur du peuple, et c'est comme les pasteurs, il y a des pasteurs qui ont peur du peuple. Et du coup, bah, ils essaient de se conformer à ce que le peuple veut. Mais ce qu'il faut, c'est se conformer à la parole. Un vrai pasteur, un vrai leader doit se conformer à la parole. Quel que soit le prix, il faut que ce soit la parole. Et il nous est dit dans 2 Chroniques, chapitre 17, que le roi Josaphat avait déjà commencé une remise en ordre de son royaume par l'enseignement de la parole et la pratique de la justice. La pratique de la justice. L'enseignement de la parole, c'est absolument fondamental parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole des hommes. Et donc, c'est elle qui nous guide, qui nous conduit, qui nous aide à savoir quel est le sens de notre vie, etc. Mais ensuite, la pratique de la justice, c'est quelque chose qui est à la base de ce quel que soit le règne, quel que soit le royaume. Et Josaphat l'a compris, alors que Saül est allé chercher même une personne dans l'occulte pour essayer de garder le pouvoir. Les politiciens cherchent le pouvoir, mais les leaders y cherchent la justice. Le monde a toujours souffert de l'injustice. Regardez ce qui s'est passé au temps d'Ésaïe. Ésaïe, c'est vieux. Eh bien, regardez ce que Ésaïe rapporte de son époque. Donc, vous voyez, on n'a pas trop à se plaindre de notre époque. Ça a toujours existé, cette situation. Alors, on va lire le verset. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est sorti dans le journal, tellement c'est actuel. Aussi, le droit recule et la justice est loin de nous. La vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut y accéder. La vérité a disparu et celui qui se détourne du mal se fait piller. Mais l'Éternel a vu avec indignation qu'il n'y a plus de droit. Au temps d'Ésaïe. Et voilà ce qu'il dit. Il n'a trouvé personne, donc Dieu n'a trouvé personne qui intercède. Voyez-vous ici, la vision du phare, c'est d'avoir des intercesseurs dans la maison de prière. Eh bien, voyez-vous, Dieu, il cherche des intercesseurs pour résoudre ce problème de justice, qui n'existe pas, mais qu'on peut limiter. Si nous, on prie ici, dans cet endroit que Dieu nous a donné, eh bien, on peut bénir toute cette région, voire Paris, parce qu'on est dans une porte de Paris, la porte ouest de Paris. Et on peut bénir toute la capitale, voyez-vous. On a une vision, on a un plan, on a une destinée que Dieu nous a donnée. Mais il faut des veilleurs. Il faut des gens qui soient là pour prier pour ces sujets-là. Si on ne prie pas, il ne se passera rien. On n'est pas à notre place. Et voyez-vous, Dieu dit, Isaïe dit, il n'a trouvé personne qui intercède, il s'en est étonné. Est-ce qu'aujourd'hui, on est étonné qu'il n'y ait pas de veilleur? Non. Pourquoi? Parce que l'ennemi fait tout pour nous endormir. Comme l'a dit Oscar tout à l'heure, à juste titre, sur la prière, il va nous endormir. Combien de fois, une réunion de prière, ou alors aller à une réunion de prière, d'un seul coup, vous sentez le poids, vous êtes fatigué. Ça vous est arrivé? Je ne sais pas combien de fois c'est arrivé. Mais ce n'est pas le hasard, les amis. Ce n'est pas le hasard. C'est que l'ennemi ne veut pas qu'on prie. Il ne veut pas qu'on intercède. Or, Dieu s'étonne en disant, mais attendez, vous apercevez qu'il n'y a pas de justice et il n'y a pas d'intercesseur. Donc, voilà, ne vous étonnez pas que l'injustice se développe. Alors, regardez ce que Dieu fait. C'est incroyable, ça. Alors, son propre bras lui est venu en aide et sa justice a été son soutien. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Tiens, l'impression que d'entendre le message d'Oscar de la semaine dernière, avec la cuillère du salut, Éphésiens 6. Là, c'est Dieu qui se revêt des mêmes armures, c'est Dieu. Dieu, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il s'est mis sur la tête le casque du salut. Est-ce que Dieu a besoin d'être sauvé? Non, vous voyez. Mais voilà, il fait ce que nous, on devrait faire, et il nous montre un modèle. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il s'est mis sur la tête le casque du salut en guise de tunique. Alors là, ça change un peu des autres outils de l'armure. Tunique, il s'est drapé de la rétribution. Voyez-vous, lui, il rétribue. Lui, il donne des choses. Vous voyez? Il n'a pas besoin de se protéger contre l'ennemi. Il est plus fort que l'ennemi. Nous, on a besoin de se protéger contre l'ennemi. Mais lui, il rétribue. Il nous bénit. Il nous donne. Voilà beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Il s'est enveloppé d'une ardeur combative comme d'un manteau. Il rendra à chacun ce qui lui vaut, ce qu'il a fait. La fureur, donc sa vengeance, à ses adversaires et leur dû à ses ennemis. Il payera leur salaire aux habitants des îles et des régions côtières. Ce passage-là devrait vraiment nous enthousiasmer en tant que chrétiens. De dire que Dieu se revêt d'un manteau parce qu'il est en fureur contre l'ennemi et contre l'ennemi qui nous agresse. Parce que quand il nous agresse, il agresse le peuple de Dieu, il agresse le corps de Christ et ça met en fureur le Seigneur et il va nous défendre, va nous venger. On le verra un peu plus tard. Voyez-vous, donc, méditez ce passage et vous allez être encouragé de voir que tous les jours, le Seigneur est là pour vous et pour vous défendre. Le psaume 103, verset 6, nous dit ceci. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous dites Amen? Voyez-vous, l'Éternel fait justice. Il fait droit aux opprimés. Et nous sommes tous opprimés à un moment donné ou à un autre, plus ou moins. Vous savez, parfois je sens l'oppression, vous aussi. Voilà, parce que l'ennemi veut nous arrêter dans notre course. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on ne soit pas des instruments du royaume de Dieu et que son royaume puisse avancer, parce qu'effectivement, le sien, il avance. Mais nous, nous voulons faire avancer le royaume de Dieu. Vous dites Amen? Alors, je reprends juste l'image, mais je ne la développe pas. C'était dans le dernier message. Le royaume de Dieu, le royaume de ce monde, où il y a deux forces qui sont à l'œuvre. Une force qui est la sainteté, parce que Dieu est saint. On ne peut pas entrer dans sa présence sans être saint. C'est souvent l'image de la robe blanche, hein, dans l'Évangile. Et la décadence. Alors, c'est l'image du parapluie, hein. Je n'ai pas amené un parapluie aujourd'hui. Il paraîtrait qu'il pleuve, mais dans un champ, on ne voit pas la pluie. Un parapluie où il vous protège juste, disons, sur la surface du parapluie. Alors, il y en a des grands, des petits, des moyens. Et voilà, donc ça, c'est une image pour vous montrer que nous, on peut marcher dans le royaume de Dieu aujourd'hui, mais c'est limité, parce que ceux qui n'acceptent pas Dieu dans leur vie, ou Jésus, eh bien, Dieu ne les oblige pas à vivre sous son royaume. Mais nous pouvons choisir notre royaume. Mais très souvent, la plupart des chrétiens, ils vivent à la limite, c'est-à-dire ils ne se mettent pas sous le parapluie, ils se mettent comme ça. Ce qui fait que leur dos est mouillé et leur devant est sec. C'est inconfortable. Vous êtes obligé de vous changer quand vous rentrez chez vous. Mais pourquoi ils font ça? Alors, sur le plan de l'image spirituelle, c'est parce que En fait, il y a quelque chose de confortable dans le monde, parce que le monde nous donne certains conforts matériels, hein, et puis nous, on a la chair, on doit vivre dans le présent, etc. Alors, une voiture, c'est super, quoi, hein. Mais enfin, une voiture qui coûte 5 ou 6 fois un prix normal, je veux dire, ça peut être de l'idolâtrie si vous n'avez pas, disons, une généalogie millionnaire. Bon. Je critique rien, je dis simplement, il y a des personnes, des chrétiens, et la plupart des chrétiens cherchent à vivre sur la frange. Sur la frange. Mais ce que je vous conseille, c'est d'aller au centre du parapluie. Parce qu'au centre, vous allez devant le trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, il y a l'exercice de la justice, justement. Et vous serez au bénéfice de l'exercice de la justice. Sinon, si vous êtes sur la frange, eh bien, vous allez toujours être contaminé par le monde. Or, le monde, qu'est-ce qu'il amène? Eh bien, c'est le prince de ce monde qui règne. C'est le prince de ce monde. C'est Satan. Et lui, il est décadent. Il est décadent, c'est-à-dire il va de plus en plus mal. Hein, c'est un peu comme vous mettez quelque chose en terre et il se détruit au fur et à mesure. C'est décadent. Et ça se dégrade. Hein. Tout ce qui est dans le monde se dégrade. Et donc, si vous n'êtes pas sous dans le royaume complètement, eh bien, vous avez une partie de vous qui va se dégrader. Alors que sous l'autorité de Dieu, dans le règne de Dieu, c'est la sainteté. Et la sainteté, eh bien, vous donne cette délimitation dans laquelle, eh bien, vous pouvez évoluer vers une édification. Vous êtes édifié, vous êtes perfectionné. Et c'est pour ça que Dieu envoie aussi des ministères dans Éphésiens 4 pour perfectionner les saints et édifier le corps de Christ, pour les faire amener vers la perfection de Christ, qu'on connaîtra quand on sera avec lui. Voilà, donc je vous invite à vraiment prendre le parapluie et vraiment être au centre, c'est-à-dire aller vers le trône de Dieu où il y a toutes les bénédictions qui vous attendent. Donc approchons-nous du trône de la grâce et le Seigneur va nous rémunérer. Je vous rappelle deux fonctions de la justice rapidement. La justice, elle, premièrement, doit punir le criminel, donc celui qui a commis le crime. Le mal, voilà, est puni parce que Dieu aime pas le mal. Et il ne peut pas l'éradiquer pour l'instant, ce sera fait à la fin, mais il va le punir. Dans le système judiciaire humain, on peut le comprendre, il y a une sorte de pardon qui est accordé au criminel. À mesure où il a purgé la peine, bah, il peut reprendre la vie normale. Donc c'est une forme de pardon. Mais Dieu aussi nous pardonne, mais il pardonne sur la repentance. Donc, vous pouvez faire le parallèle. Et la deuxième fonction de la justice, c'est de restituer à la victime pour lui permettre d'être restaurée, indemnisée, la dédommager pour les torts qui ont été commis envers elle. Donc, ça, c'est les deux fonctions de la justice. Et Dieu, en plus, introduit, comme dans la justice d'ailleurs, introduit un règlement ou un accord judiciaire, qu'il faut saisir à l'issue du jugement. Je ne vais pas reprendre l'histoire des tours jumelles qui se sont effondrées à New York, mais comme je le disais, je crois qu'il y a des millions qui sont proposés à ceux qui sont encore vivants et qui ont eu des torts, mais il fallait remplir certaines conditions pour l'obtenir. Mais le jugement a été donné en gros, pour tous ceux qui sont dans ces cas-là. Donc, il y a un règlement, un accord judiciaire dans lequel il faut rentrer. Et cet accord, dans la parole de Dieu, pour nous, eh bien, il prend en compte la souffrance qu'on a subie. Pas uniquement le tort premier, mais la souffrance qu'on a subie. Et il nous donne 7 fois plus. Voyez-vous? 7 fois plus que ce qui nous a été fait. Donc, vous voyez, l'injustice, eh bien, c'est que quelqu'un nous a volé. Donc, voilà, la balance, elle n'est pas équilibrée. Et donc, ça, c'est un règlement que Dieu donne pour que nous puissions retrouver, eh bien, l'équité, que nous puissions revenir à l'équité et que nous puissions continuer notre marche. Il ne faut pas qu'en tant que chrétien, on marche tout le temps comme ça parce qu'on a subi des torts. et que voilà, on se plaigne sans arrêt de ce que le voleur nous a fait. Exercer la justice, c'est effectivement que le voleur qui vous a fait du tort et qui vous a induit dans cette balance qui est devenue déséquilibrée, eh bien, que Dieu qui est juste ne vous laissera pas tomber, comme on l'a vu tout à l'heure, et comme le dit le psaume 103, verset 6, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Alors, Dieu est un juge, et ce juge, eh bien, il regarde les poids qu'il doit mettre sur la balance pour vous redonner ce que l'ennemi vous a volé, hein. Et ces poids, eh bien, nous permettent non seulement, eh bien, d'équilibrer, mais en plus de compenser toutes les peines que vous avez eues. Parce que si vous avez été volé, si vous avez été violé, si vous avez été, voilà, eh bien, il y a la peine en plus qui suit. Parfois, l'argent tout seul ne suffit pas. Et donc, Dieu prend en compte tout ça. Voyez-vous, comme quoi Dieu est un juge qui prend soin de nous. Alors, la question de la vengeance. Alors, est-ce que la vengeance, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, etc. C'est comme beaucoup de thèmes de la Bible. Eh bien, je peux vous dire que Dieu se venge. Dieu, il se venge. Et il y a beaucoup de passages dans la Bible. Naoum, par exemple, 1, verset 2, dit « L'Éternel est un Dieu jaloux, il est vengeur. » Alors, vu comme ça, voyez-vous, il y a des gens qui prennent ce genre de déclaration en disant, voyez, 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 le Dieu des chrétiens, etc. C'est quelqu'un qui est méchant, qui est dur, etc. Mais spirituellement, c'est ce que je veux vous faire comprendre ce matin, c'est que Dieu peut se venger parce qu'il est juste. Hein. Et se venger, ça veut dire reprendre des choses à celui qui nous a volé. L'Éternel est vengeur et plein de furie. L'Éternel tire vengeance de ses adversaires et garde sa colère contre ses ennemis. Dieu peut se mettre en colère. Dieu est aussi un Dieu de colère. Il est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de colère contre le mal. Ça, c'est la version Darby. Donc, c'est littéral. La version du Semeur, hein, qui est un peu français courant, dit « L'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait payer. L'Éternel fait payer sa fureur est terrible. Il fait payer ses adversaires. Il garde son ressentiment contre ses ennemis. » Voyez-vous, c'est très fort. Hein. Et ça, il faut l'entendre pour pouvoir se l'appliquer par la suite. Dieu a le mal en horreur parce qu'il ne l'a pas créé. Le mal a été créé par Satan qui s'est rebellé contre Dieu et qui a entraîné l'humanité avec lui dans le mal. Donc Dieu a le mal en horreur, c'est pourquoi il jugera Satan et ses anges qui ne bénéficieront pas de sa clémence. Il n'y a aucune repentance possible pour les anges, nous dit la parole. Par contre, pour les hommes, oui, c'est un mystère. Pourquoi Dieu a choisi les hommes de leur possibilité de se repentir et de retrouver la faveur de Dieu? Parce que naturellement, nous sommes pécheurs. Par notre naissance, nous sommes pécheurs. Et nous n'avons rien fait pour ça, si ce n'est que de naître de nos parents. C'est injuste. Voilà. Et Dieu, il est juste. Et il nous donne la possibilité, eh bien, de retrouver, eh bien, l'intégrité morale, l'intégrité de justice. Alors Dieu va à nouveau nous laisser venir dans sa présence lorsque nous nous sommes repentis. C'est pour ça que la première repentance, c'est le baptême. Se repentir de ses péchés, c'est le baptême, c'est l'entrée dans le corps. Et ensuite, après, il faut continuer à se repentir. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, il faut continuer à demander pardon. Alors des fois, c'est voilà, je m'excuse, c'est une forme de pardon. Et parfois, c'est beaucoup plus fort, quoi. On a connu des pardons aussi dans l'Église qui allaient plus loin parce qu'on peut se blesser plus fort. Mais n'empêche que c'est un rétablissement de notre position que Dieu veut pour nous bénir. La vengeance est quelque chose, un attribut de Dieu. Dieu venge ses ennemis qui sont aussi nos ennemis. Et donc, il peut se venger et il est vengeur. Dieu peut venger sans faire d'injustice. C'est pour ça qu'il peut se venger. Parce qu'il connaît toutes choses. Il connaît tous les détails de l'histoire, de notre affaire. Si on avait une affaire d'injustice, il connaît tout. Et il peut tenir compte de tous les paramètres. Donc, il peut se venger avec justice. Et la vengeance divine, c'est lorsque Dieu agit contre les personnes qui ont fait du mal, Il ne se venge pas pour se venger, hein, mais contre le... Et pour cela, c'est très important ce que je vais vous dire, c'est que quand vous êtes dans une situation où Dieu veut vous venger, veut venger vos ennemis, eh bien là, il faut se retirer. Il ne faut pas mettre la main dans la vengeance. Hein. Et la parole de Dieu est très claire. Dans Romains 12, il dit « Ne vous vengez point vous-même. » Ne vous vengez point vous-même. Mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Amen. Voyez-vous, là, ça prend du sens. Ça prend du sens par rapport à la justice, par rapport à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est que Dieu n'aime pas. Alors, n'aime pas du tout le mal, n'aime pas du tout l'injustice, parce que lui, il est juste. Et Salomon l'a prouvé, que justement, Dieu a aimé que Salomon établisse la justice sur la terre. Et Dieu voudrait que la terre soit juste, et un jour, Jésus établira cette justice sur la terre. Nous connaissons les passages. Donc, quand vous demandez vengeance à Dieu sur vos ennemis, eh bien là, il faut se retirer et s'attendre à Dieu. Le problème, c'est facile à dire. Parce que quand vous vengez, par exemple, bon, vous vengez d'une situation, même dans votre famille, voilà, des fois la vengeance, ça peut être quelque chose de spontané. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous soulagez immédiatement. Immédiatement, vous êtes soulagé. Pourquoi? Parce que vous jetez le tort sur l'autre, vous l'accusez, etc. Voilà, vous êtes tranquille, etc. Le problème, c'est que ça ne dure pas longtemps. Alors que quand Dieu vous venge, c'est quelque chose qui dure. C'est quelque chose qui est stable parce que c'est Dieu qui l'a fait à votre place. Et c'est pour ça qu'il faut s'attendre à Dieu. Quand on est attaqué, au lieu de se plaindre en disant « Ah, je suis attaqué », ok, il faut dire à Dieu, il faut rentrer dans votre chambre, il faut dire à Dieu, il faut dire « Seigneur, eh bien, tu vois ce qui s'est passé ». Eh bien, je me retire de cette situation. Toi, tu es à mes côtés pour me défendre. Je te laisse faire. Le problème de ça, c'est que parfois, c'est long. Quand on se venge soi-même, c'est immédiat. Quand Dieu nous venge, des fois, ça dure 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voyez-vous, là, on a démarré ici l'église. Dès qu'on est venu ici, les anciens se sont déchirés et on a des divisions. Et José Dizazou, qui est un des anciens avec lequel je travaillais quand on était à Saint-Martin dans l'église de maison, eh bien, voilà, ça s'est très mal passé, on a une division, etc. Ça, c'était en 1992. Eh bien, 20 ans plus tard, il est venu ici. Il n'osait pas monter parce qu'il avait peur que je ne le reçoive pas bien. Il montait ici. Il a demandé pardon devant toute l'église. Moi, je l'ai embrassé, il n'y a pas de souci, il a demandé pardon. Voilà, c'était une réconciliation 20 ans après. Dieu a jugé. Bon, là, il faut prier pour lui en ce moment, il a un cancer et tout, il est un peu seul, donc on va prier pour lui dans les réunions de prière. Hein. Mais voilà, je veux dire, c'est 20 ans que j'ai dû attendre que Dieu fasse justice. Il a dit non, je me suis trompé. Et il m'a dit, encore au téléphone cette semaine, il m'a dit, écoute, André, la meilleure église que j'ai jamais connue, c'est celle d'Aubergenville. Je ne l'ai pas obligé de dire ça. Mais s'il a reconnu aujourd'hui, il est complètement dans la misère, ses enfants aussi n'ont pas suivi le Seigneur, en tout cas, sauf la fille, etc. Voilà, mais Dieu, il faut laisser Dieu faire. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, il faut de la patience. Mais quand on est persuadé des passages que je vous cite, eh bien, Dieu, un jour, eh bien, il fait vengeance. Bénis soient ceux qui s'attendent à lui, car ils ne seront pas déçus. Le problème de l'attente, attendre que Dieu fait, ça ne doit jamais être une attente passive. Voyez-vous, j'attends. Ah non, ce n'est pas une attente passive. Alors, vous pouvez attendre un mois, deux mois, trois mois, et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Vous tombez en dépression. Ah, Dieu fait rien. Non, ça c'est pas l'attente que Dieu demande. L'attente que Dieu veut, c'est l'attente comme la veuve qui importune le juge inique. Vous rendez compte, un juge inique, mais il était juge, il a l'autorité de trancher. Eh bien, la veuve, toute la nuit, et même avant la nuit, le juge a lâché prise et lui a rendu justice, parce qu'elle a cogné. Et la Bible dit que à cause de ce qu'elle a importuné, il l'a fait. C'est pas tellement parce qu'il était juste, c'est parce que la femme, elle a insisté. Et voilà, il faut avoir cette attente de Dieu en disant, Seigneur, je t'ai confié ça, je te fais confiance, je ne fais rien du tout. Et je me retire, je prie, je bénis la personne et je bénis même ceux qui m'ont fait du mal. Il faut être dans une attente qu'on appelle proactive. C'est-à-dire, Dieu agit, nous on agit avec lui, mais c'est lui qui venge, c'est lui qui agit. Comme l'enseigne la parole, alors on a beaucoup d'enseignements, hein. On a la parabole de la veuve et du juge unique que je viens de vous dire, on a Job, bien sûr, qui est le livre par excellence, on a vu Job attendre, mais en se battant contre ses amis, Dieu n'était pas content. Il a dû prier pour ses amis pour que Dieu les bénisse, parce qu'il n'était pas content des conseils qu'il a donné à Job. Même sa femme lui a dit, écoute, voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Tu renies Dieu, voilà. Il lui a dit, tu n'as qu'à renier Dieu, puisque Dieu, il ne fait rien pour toi. Mais il a tenu pendant tout le livre qui nous est raconté, et Dieu l'a rétabli deux fois plus que tous les biens qu'il avait. Il y a le psaume, le premier chapitre, le premier verset, vous avez le psaume qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. » Et là, j'aimerais vous donner une révélation. La loi de l'Éternel, c'est pas la loi, il faut respecter la loi. Il met sa joie dans l'application de la justice. Là, dans ce passage, psaume de verset 1er et verset 2, c'est qu'il met toute sa joie, parce que la justice est basée sur la loi. Dieu, il donne des lois. Le gouvernement humain donne des lois, et l'Assemblée nationale, tous les jours, il donne des lois. C'est par rapport à la loi qu'on peut juger une situation qui est bonne ou qui est mauvaise. Ben, Dieu, il a des lois, mais il met sa joie dans l'application de la justice que Dieu fait par rapport à sa loi. Et rappelez-vous, Jésus, quand il était sur terre, il a dit, vous, pharisiens, vous dites. Vous dites parce qu'il y a la loi, etc. Et puis, ils ont tellement organisé la loi en plus de ce que Dieu a donné, les 10 commandements, qu'en fait, c'était impossible. Même eux ne pouvaient pas l'appliquer, cette loi-là. Jésus dit, vous, vous dites, mais moi, je vous dis. Et Jésus guérissait le samedi alors que c'était interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est l'esprit de la loi. C'est celui qui fait la loi, il sait pourquoi il la donne. Donc il interprète la loi, vous voyez. Et donc c'est selon cet esprit que Dieu juge et que Jésus a agi. Salomon veut appliquer la justice à son peuple et Dieu approuve cette demande. Dieu était heureux de voir qu'un gouvernant lui demande effectivement de pouvoir appliquer la justice selon l'équité. Deuxième point important, après la vengeance, c'est marcher par la foi. Attendre, mais marcher par la foi. Alors, je vous donne un exemple aussi de justice qui aurait pu mal se passer si les apôtres, les disciples de Jésus n'avaient pas compris ce principe. Dans Actes chapitre 4, vous lisez les apôtres qui ont été injustement mis en prison. Ils ont été arrêtés parce qu'ils prêchaient l'Évangile. Mais ils ne vont pas se venger envers leurs ennemis. Mais ils réclament quelque chose à Dieu. C'est l'assurance de pouvoir continuer à prêcher et la puissance de Dieu. Voyez-vous, là, c'est extraordinaire. Reprenez ce passage chez vous, parce qu'on n'a pas le temps de le méditer ce matin. Mais je vous lis juste le verset 29. Quand, une fois que les apôtres, voilà, je donne le contexte, une fois que les apôtres ont été arrêtés et qu'ils ont été relâchés, parce que Dieu n'a pas permis qu'ils restent prisonniers et qu'ils ne puissent pas continuer l'œuvre à laquelle il les a appelés, eh bien, ils font un rapport aux chrétiens qu'ils revoient, et voilà ce qu'ils disent. Ils disent, maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace. Et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ont attaqué injustement. Ils ont été mis en prison. Ils ont été menacés en disant, maintenant, si vous recommencez, vous allez en prison. Ils savaient que la sentence allait tomber. Mais ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas dit, oh, oh, on est malheureux, voilà ce qui se passe, et puis voilà, il faut que tout le monde prie pour nous, etc. Parce que, non. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Seigneur, tu vois cette situation. Voyez-vous, ils vont vers Dieu, ils vont devant le trône de Dieu. Parce qu'ils sont proches du trône, ils savent qui est Dieu, ils savent comment Dieu agit, qu'il agit avec justice. Donc ils vont voir devant, parce que ça c'est une prière. Et si vous continuez à lire, vous allez voir que derrière cette prière, la terre a tremblé, les murs ont tremblé, il y a eu un tremblement de terre tellement c'était puissant, parce que Dieu a approuvé cette prière. Et il y a eu des guérisons, des miracles, des choses incroyables qui se sont passées après cette prière. Mais les apôtres, ils ont marché par la foi. Ils ont dit, Seigneur, c'est pas possible, c'est complètement injuste. Tu nous demandes d'annoncer la parole, et eux, ils nous interdisent et nous mettent en prison. Ils disent, Seigneur, tu vois, ils nous menacent. Mais c'est quoi les menaces? C'est rien du tout. Voyez-vous, quand on s'élève dans la compréhension de la justice de Dieu, eh bien, on voit que c'est peanuts, tout ce que les gens peuvent faire, y compris des chrétiens, hein, qui peuvent vous attaquer, tout ça. Non, c'est parce que vous voyez la puissance de Dieu, vous voyez le règne de Dieu, vous voyez le trône de Dieu qui est là et qui est à votre disposition. Et il dit, Seigneur, tu vois, ils nous menacent. Hein? Mais ils ne nous ont pas dit, Seigneur, descends le feu du ciel sur eux. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils auraient pu dire. Ils auraient pu faire des prières de vengeance vis-à-vis de... Non, ils ne l'ont pas fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Amen. Parce qu'ils ont été missionnés, et ils sont restés sur la mission, avec une pleine assurance, avec une pleine autorité, avec une pleine efficacité. Voyez-vous, ils ont été galvanisés par le fait de savoir que Dieu n'allait pas laisser faire. S'il leur a demandé de le faire, eh bien, ils s'assoient sur la promesse de Dieu. Et étends ta main, Seigneur, pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que Dieu approuve cette prière. Dieu a approuvé cette prière. Et il y a même eu des tremblements de terre après cette prière. Et l'Église a progressé de manière étonnante. Quand ils eurent fini de prier, verset 31, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés ensemble. Pas autour, juste à l'endroit. Hein. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole avec assurance. Voyez-vous, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Il y en a ici qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Ah ben, ne vous vengez pas, mais demandez à Dieu la vengeance. Dieu s'en est occupé, hein. Mais eux, ils ne s'en sont pas occupés de ceux qui les ont mis en prison. Ils ont simplement dit, c'est peanuts. Il ne peut rien nous arriver si on est sur la parole de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Et ils annonçaient la parole avec assurance et l'Église a pu démarrer. L'accord d'entiercement. Alors ça, c'est un élément un peu difficile au niveau de la justice à comprendre. Déjà, l'accord d'entiercement, c'est anglo-saxon. Ça n'existe pas en français. J'ai dû chercher. C'est un accord, alors surtout dans le business, où vous voulez protéger quelque chose et vous le donnez à un tiers qui le met dans un coffre-fort. Et cet accord ne peut être ouvert que s'il y a des conditions qui sont remplies. Alors chez nous, on peut, alors c'est un accord sous scellé, vous voyez, ça peut être chez le notaire, on peut mettre un accord ou un testament, voilà. Donc cet accord d'entiercement se produit dans la justice sur l'anglo-saxonne, mais chez nous il y a un peu l'équivalent. Et ça, il faut bien comprendre ce que c'est. L'accord d'entiercement, ça peut aussi jouer sur nos lignées généalogiques. Alors vous priez là-dessus pour ne pas tomber dans des mauvaises compréhensions. Ça peut jouer sur notre lignée généalogique, père, grand-père, arrière-grand-père, etc. Pourquoi ? Parce que, en fait, les malédictions, vous savez, suivent 3-4 générations, voilà. Mais les bénédictions aussi, il y en a même qui peuvent aller beaucoup plus loin. Bon. Donc si vous voulez, on est au bénéfice de soit des malédictions, soit des bénédictions. concernant nos ancêtres, parce que voilà, nous naissons par rapport à des personnes qui nous ont précédés, qui nous ont donné la vie. Et donc, il peut se passer, il peut être, je ne sais pas, dans votre famille, des arriérés qui étaient chrétiens ou qui ont été affectés par des injustices quelconques, mais sont repentis, ou il y a des choses qui se sont passées, où Dieu leur a fait justice, et il leur a donné justement ce règlement de justice. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez un grand-père qui a été volé d'un million d'euros, je ne sais pas quoi, etc., pour injustement, etc. Bon, bah, Dieu a pu faire un accord de justice et vous pouvez le récupérer. Donc ça peut même être une bénédiction pour vous d'être dans cette disponibilité de justice. Sinon, au bout de 3 générations, bah, ça rentre dans le domaine public, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus le récupérer. Vous voyez. Et c'est pas encore possible pour vous d'en bénéficier. Donc, il peut y avoir toutes sortes de situations de ce genre dans votre famille, priez là-dessus, mais ça fait partie de la justice. Dieu, c'est un juge qui a jugé les choses et qui a établi un certain nombre de contrats. Contrat d'entièrement, des contrats où il a béni, mais si la personne n'a pas bénéficié de ça parce qu'elle ne connaissait pas cet enseignement, bon bah oui, si vous bénéficiez d'un million d'euros, ça peut peut-être vous arranger. Aujourd'hui, hein, votre vie peut être différente. Mais c'est parfois aussi vrai au niveau de la maladie, c'est parfois vrai au niveau d'autres domaines, hein, mais je ne rentre pas là-dedans. C'est juste pour dire, voilà, jusqu'où cet enseignement sur la justice peut nous aider à voir les choses différemment par rapport à Dieu. Il faut le saisir, parce que c'est disponible que si on ouvre les scellés pour le recevoir. Dernière chose que je voudrais évoquer, je termine là-dessus, c'est que dans la parole de Dieu, il est dit qu'à la fin des temps, et toutes les générations pensent que c'est la fin des temps, hein, 68, quand je me suis converti, on parlait déjà de la fin des temps. Aujourd'hui, on parle de la fin des temps. Toutes les générations parlent de la fin des temps. C'est quand la fin des temps? Ben, je vais vous dire une chose, on ne sait pas. Mais par contre, on sait une chose, enfin plusieurs choses là-dessus. C'est que à la fin des temps, il y aura un homme qui va monter, s'appelle l'Antéchrist. Ben, il y a beaucoup d'Antéchrist, hein, depuis l'origine, qui va être un homme sans loi. Alors le problème du français, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut parfois soit aller au grec si on sait le grec, ou à l'hébreu, ou alors vers l'anglais. Souvent King James est plus proche des textes originaux. Et pour nous, on appelle ça l'homme d'iniquité. Vous avez déjà entendu ça? L'homme d'iniquité. Ça veut dire quoi l'homme d'iniquité? Si quelqu'un comprend, moi j'ai jamais compris l'homme d'iniquité. Bon, c'est l'homme du mal. L'anglais dit, c'est the man of lawlessness. Ça veut dire que c'est l'homme sans loi. Ça veut dire que il enlève la justice carrément sur la terre. Vous voyez? Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, il dit que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, l'homme de révolte, le fils de la perdition, l'homme sans loi, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore. L'homme sans loi, c'est l'homme qui va tenter de ruiner le système judiciaire que Dieu approuve sur la terre. Parce que s'il n'y a plus de justice, je peux vous dire que là, des fois ça arrive dans certains pays où le système s'écroule, il y a la guerre civile et tout ça. Je ne sais pas si c'est un Congolais, je crois, qui m'a raconté ça. À un moment donné, il n'y a plus de gouvernement, il n'y avait rien. C'était horrible, c'était l'enfer sur la terre. Toutes les femmes étaient violées, et pas par des ennemis, c'est entre eux, hein, je veux dire, voilà, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Même regardez récemment, quand il y a eu le truc sur les retraites, là, c'est pas la guerre des retraites, mais enfin, les lois sur les retraites. Bah, il paraît qu'il y ait beaucoup de jeunes, des jeunes bien pensants, hein, ce n'est pas des voyous, bah, qui rentraient dans les magasins, qui se servaient, qui, voilà, ils pensaient que c'était, voilà, c'était ouvert, il n'y a plus de loi, il n'y avait plus rien, etc. Et qui rentraient dans les magasins, ils volaient tout ce qu'il y avait dedans, ils sortaient avec des. Sur les journaux, on voyait qu'il y a une fille qui sortait avec tout plein de vêtements. Ouais, parce que voilà, il n'y a plus de loi, on peut faire ce qu'on veut. Quand il n'y a plus de loi, mes amis, ce n'est plus vivable. Ce n'est plus, la terre n'est plus vivable. Quand il n'y a plus de justice, ce n'est plus vivable. Parce que l'homme, voilà, il dit, la loi, c'est ma loi. Donc ma loi, c'est je me sers parce que j'ai été floué, voilà, parce que ceci, cela, etc. Donc je me sers, vous voyez. Donc, et s'il n'y a pas de policier, s'il n'y a pas de prison, s'il n'y a plus rien, c'est l'horreur. Eh bien, l'homme qui va tenter de ruiner le système judiciaire sur la Terre, c'est l'homme sans loi qui va monter. Et ce système judiciaire est dans le ciel, Dieu l'établit, et aussi sur la Terre. Et tout s'appuie sur des lois. Le système judiciaire s'appuie sur des lois pour pouvoir établir la justice. Alors, je vais terminer par la prière. Et je prie pour vous, si vous avez subi une injustice, et certainement c'est le cas, et que vous n'avez pas encore demandé à Dieu de vous rendre justice, eh bien, demandez au Seigneur, bien, Seigneur, restitue ce que l'ennemi m'a volé. Vous n'attendez pas forcément à une réponse immédiate, hein, ça peut être immédiat, je ne sais pas, mais ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 6 ans. Vous voyez, c'est notre foi qui doit être exercée. Mais le Seigneur va le faire, et ça, c'est la foi. Et ça, c'est l'assurance. Et ça vous donnait du punch à nouveau pour repartir avec le Seigneur, voyez-vous? Parce que l'ennemi veut tout le temps faire une chose, c'est nous abattre, nous abattre, nous abattre. Ouais. Alors qu'on a un Dieu puissant, on le dit, Seigneur, tu es puissant. Oui, mais où est-ce qu'elle est la puissance si moi, je ne manifeste pas par mon enthousiasme, voyez, par le fait que je sais que Dieu va agir. Sachez que la justice est la base de son trône, la base de son règne. Et il va vous faire justice. Seigneur, je te prie pour les bien-aimés qui sont là ce matin, qui ont entendu cette prédication sur la justice. Seigneur, toi, tu n'as pas changé. Seigneur, si 500 fois dans ta parole, tu parles de justice, et Seigneur, tu nous enseignes sur le fait que toi, tu es un Dieu de justice, et que Seigneur, tu te venges de nos ennemis. Seigneur, donne-nous la grâce de nous retirer de tout désir de vengeance, nous-mêmes, de te laisser agir. Mais de te faire confiance que Seigneur, tu vas intervenir, quel que soit le temps que ça prendra. Et en attendant, Seigneur, eh bien, donne-nous l'autorité, la puissance, comme tu l'as donnée aux apôtres, pour que nous puissions annoncer ta parole, pour que nous puissions, Seigneur, voir des guérisons, des miracles, des prodiges se produire, Seigneur, afin que les hommes de ce monde puissent être touchés par ta grâce et puissent se convertir à toi, qu'ils puissent, Seigneur, être guéris dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Le Seigneur me fait juste penser à un témoignage que j'ai entendu. Je voudrais vous le laisser juste avant de laisser la place à Alexis. Il y a un homme de Dieu qui a témoigné pour confirmer cet enseignement. Une femme qui était mariée avec un homme qui était très, très narcissique et qui lui faisait beaucoup de mal. Et elle avait un enfant autiste. Voilà, qui était très malade, etc. Et voilà, elle était vraiment, vraiment, vraiment abattue. Enfin, ce couple était abattu, etc. Et cet homme était tellement mauvais qu'un jour, il a plaqué. Il a plaqué sa femme avec son enfant et tout ça. Et bon, comme il avait de l'argent, parce que bon, il faisait des voitures, je crois, des choses comme ça, il est parti et il aurait dû payer la moitié de la pension pour qu'elle puisse vivre avec cet enfant. Eh bien. Elle est allée devant Dieu. Elle dit, Seigneur, tu vois ce qui s'est passé. Tu vois, c'est injuste ce qui m'arrive. Et vous savez ce qui est arrivé? Quelques semaines après, son enfant est guéri. Il a guéri. Elle n'a pas eu la pension, mais elle préférait que son enfant soit guéri. Voyez-vous, Dieu donne différemment. Dieu sait rétribuer. Et pour elle, c'était bien plus que d'avoir de l'argent pour son fils, parce que voilà, et s'attendait pas à ça. Voyez-vous comment Dieu peut agir avec justice? Il a vu le besoin de cette femme et il lui a rendu un enfant qui a guéri. Vous savez, moi je préfère la guérison que l'argent. L'argent, ça rentre là et ça sort là. Vous voyez? Si je le donne à mon pompiste pour lui, il va le donner à un autre, etc. L'argent, ça circule. Le pouvoir que Dieu donne, il ne circule pas. S'il vous donne le pouvoir de guérir les malades, bien les malades seront guéris à vie parce que le Seigneur a béni. Et donc il faut rechercher eh bien le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu vous donnera au-delà même de ce que vous demandez. Mais laissez Dieu faire et il va vous bénir.